Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio, très contente de vous retrouver. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu ça passer un peu sur les médias sociaux. Depuis quelques jours, je me suis pognée. Ben oui, on peut dire ça comme ça. Ben oui, j'ai le droit de dire le mot pognée. J'ai eu un petit accrochage sur les médias sociaux avec Sugar Sammy, l'humoriste québécois qui fait maintenant une très très belle carrière en France. J'avais écrit une chronique sur lui, sur Sugar Sammy, où je considérais qu'il avait fait une mauvaise blague sur l'Office québécois de la langue française. Et depuis, ben on joue un petit peu au ping-pong tous les deux. Écoutez, essentiellement, Sugar Sammy considère que on n'a pas, en période de pandémie, à mettre 5 millions pour donner plus de puissance et plus de force à l'Office québécois de la langue française. On n'a pas le bon sens des priorités. Alors, j'aimerais quand même répondre à Sugar Sammy que, oui, le français est menacé au Québec. Et s'il pense que tout va très bien, Madame la Marquise, on a juste à regarder l'intervention de Dominique Anglade à la tête du Parti libéral qui, cette semaine, a commis vraiment une grosse bévue à l'Assemblée nationale. Elle a commencé son adresse aux journalistes et elle a parlé en anglais. Et heureusement, il y a un collègue de Cogeco, Louis Lacroix, pour pas le nommer, qui lui a dit, écoutez, moi, ça fait depuis 2003 que je couvre l'Assemblée nationale, ça ne se fait pas. Vous adressez pas aux journalistes en anglais. Le Québec, c'est une province francophone. Oui, vous pouvez répondre aux questions des journalistes en anglais, bien sûr. Mais alors, quand il y a quelqu'un qui est à la tête du Parti libéral, qui est en train de transformer le Québec en province fluently bilingual, ben je m'excuse, Monsieur Sammy, Monsieur Sugar Sammy, Sammy Kulak, il y a des raisons de s'inquiéter. Et moi, c'est pas vrai que je vais arrêter de taper sur le même clou. Je vais prendre mon marteau de la loi 101 et je vais continuer de taper et taper constamment sur le même clou. Oui, le français est menacé au Québec. Oui, il faut donner plus de pouvoir à l'Office québécois de la langue française. Puis savez-vous quoi? C'est pas parce qu'on est en pandémie que tout le reste de la société doit arrêter de tourner. On est capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. On peut très bien combattre le virus de la COVID et combattre le virus de l'anglicisation du Québec. On est très bien capable de faire les deux en même temps. Alors, quand je vois Sugar Sammy qui dit que ce qu'il aime pas au Québec, c'est des chroniqueurs comme moi. Oh, Sugar Sammy, ben voyons donc. Allez donc taper sur d'autres clous, s'il vous plaît.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous avez peut-être vu au dernier gala des Emmy Awards, c'est une série canadienne qui a vraiment raflé beaucoup, beaucoup de prix. D'ailleurs, même l'animateur de la soirée a fait des blagues là-dessus. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est une série canadienne qui est quasiment incognito au Québec, la série Schitt's Creek. On va en parler avec notre chroniqueur du vendredi, Thomas Leblanc, chroniqueur et animateur. Bonjour Thomas.
Salut Sophie.
Écoute, il y a plein de signes dans la société qui montrent qu'il y a vraiment deux solitudes au Canada, mais je pense que quand on parle de culture populaire, des fois c'est effarant de voir qu'il y a des artistes qui sont très connus dans une communauté, complètement inconnus dans l'autre. À peu près la seule personne qui est capable d'être connue dans les deux langues, c'est Céline Dion. Mais parlons un peu de cette série que moi je trouve fabuleuse, Schitt's Creek, qui a vraiment raflé plein de prix aux Emmys dimanche soir.
Oui, c'est une série de la CBC qui vient de se conclure après 6 saisons, qui a été créée par un acteur comique qui s'appelle Eugene Levy et son fils Dan Levy. Eugene, peut-être que les gens vont le replacer si je leur dis qu'il jouait dans American Pie il y a une vingtaine d'années. Donc, avec son fils, dans le fond, il forme une famille dans la série, la famille Rose, qui est propriétaire d'un club vidéo. Ils sont super, super riches. Et là, il y a une crise économique qui se produit et ils perdent tout. Ils doivent déménager dans un petit motel crabe dans une ville qui leur appartient, qui est comme une ville qui est située en Ontario, mais qui pourrait être vraiment n'importe où en Amérique du Nord. Et c'est un peu la prémisse de la série. Ils veulent pas être là au départ. Et au fil des saisons, ils apprennent à aimer la ville, ils apprennent à se faire des amis. Et le fils David Rose, qui est joué par Dan, fait son coming out. Il se retrouve en couple. Ça cartonne au Canada anglais. Et la série s'est retrouvée sur Netflix il y a une couple d'années. C'est devenu un succès assez mondial, je te dirais. Mais dans les comptes rendus des prix Emmys au Québec. Oh, c'était à peine une ligne et on a bien plus parlé de Succession qui a rempli la série dramatique qui a remporté beaucoup de prix. Donc pour moi, c'était tellement symbolique de se dire hey, on reste quand même canadien. C'est un gros, gros succès. La série a remporté 7 prix dimanche soir.
C'est énorme.
La première fois que les 4 acteurs principaux ont remporté le prix du meilleur acteur ou meilleur acteur de soutien dans les catégories comiques. C'est la première fois que ça arrive, Sophie. C'est gros, là.
Mais non, mais c'est énorme. C'est énorme, et d'autant plus que ils ont, en fait, la série a remporté tous les prix dans lesquels ils étaient en nomination. Donc, c'est ce qu'on appelle au tennis un grand chelem, là. C'est vraiment le gagnant au tiercé. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, en plus, c'est une série qui est diffusée à la CBC. Tu sais, c'est quand même notre société d'État. Donc, les Québécois devraient s'intéresser à cette série-là, ne serait-ce que parce que, avec nos impôts, on paye pour.
Absolument.
Tu comprends?
On paye pour. Ça reste un succès canadien. Puis ce que je trouve un peu tordu là-dedans, c'est que je vois quand même aussi beaucoup de gens autour de moi, et moi inclus, qui vont se passionner pour les nouvelles séries américaines, les nouvelles
Absolument.
Sorties sur HBO, les nouvelles sorties ouais. sur Netflix. Mais là, c'est une série canadienne et ça passe un petit peu plus dans le beurre. Je trouve ça dommage parce qu'en plus c'est en fait il y a quelque chose de très canadien dans la série qui est qu'on fait de l'humour mais un humour qui est rassembleur, qui est positif, qui va pas nécessairement se moquer de certains groupes ou dans les réflexes naturels si je peux dire de l'humour. Et le créateur de la série Dan c'est une personne de la communauté LGBTQ. Moi ça me rend fier parce qu'en humour c'est pas un milieu qui est facile pour un homme ouvertement gay. Même aujourd'hui, là, encore aujourd'hui pour un homme gay. Et dimanche, il a remporté le prix dans sa catégorie meilleur acteur de cité en comédie, mais aussi meilleur réalisateur et meilleur auteur pour une série comique. C'est la première fois de l'histoire des Emmys que ça se produit, qu'une même personne, le même soir, remporte ces trois prix-là.
Donc, et c'est pour ça, ouais. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant que dans les médias au Québec, c'est tous ces accomplissements-là, toutes ces victoires-là, n'aient pas été soulignées avec cet angle-là. Et je te dirais, pour avoir regardé quelques épisodes, là, j'ai pas regardé au complet Schitt's Creek, mais j'ai regardé quelques épisodes. Écoute, c'est vraiment une série qui parle de tolérance, d'ouverture à l'autre, d'aller au-delà de nos préjugés, tout en nous faisant rire. Moi, je trouve ça pissant, là, c'est super drôle. Et écoute, personnellement, je vais te dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup les gens, mais j'ai regardé Schitt's Creek, puis j'ai regardé aussi C'est comme ça que je t'aime, là, la série que tout le monde se pâme devant cette série-là. J'ai pas ri une seule fois. Je comprends pas l'intérêt de C'est comme ça que je t'aime. Les blagues qui reviennent tout le temps, l'œil du lynx ou l'œil du tigre, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai trouvé ça assez ordinaire comme série, et je ne comprends pas que nos médias se soient entichés à ce point-là de « C'est comme ça que je t'aime » et est si peu parlé de Schitt's Creek. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi.
Puis aussi, faut vraiment terminer en soulignant le rôle de Catherine O'Hara qui joue le rôle de Moira Rose, la mère.
Quel personnage hallucinant. Ah ouais, vraiment.
Le personnage, l'actrice, vraiment très, très drôle. Elle, pour les gens qui la replacent pas, elle jouait dans Home Alone. C'est celle qui faisait la mère de...
La mère?
Dans Home Alone. Oui,
tout
dans
à fait.
Home Alone. Il y a une trentaine d'années, vraiment excessivement drôle. Elle a toujours des tenues et des perruques différentes dans presque chaque scène. C'est vraiment, vraiment une série bonbon. Puis en plus, dans l'année qu'on vit, dans l'année difficile qu'on est en train de vivre, ça fait comme du bien, les bonnes nouvelles. Donc pour moi, c'est vraiment la bonne nouvelle de la semaine.
Mais tout à fait. Et moi, je trouve que ça confirme deux choses. Le principe des deux solitudes et le principe aussi de nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que cette série canadienne qui normalement devrait au Canada français être, on devrait se taper les bretelles en disant, hey, il y a un petit peu de nous là-dedans. Ben, si la même série, les Québécois avaient su que c'était une série qui venait du fin fond du Wisconsin ou une série suédoise ou italienne ou espagnole ou n'importe quoi, les gens l'auraient regardé et auraient ri abondamment. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de préjugé, malheureusement. « Ah, oh, c'est une série canadienne. Ah, oh, les Ontariens, c'est des gens plates. Ils roulent les trottoirs à partir de 10 heures le soir. » Ben non, ça fait le party, ce monde-là, puis c'est super drôle. Vraiment, un humour absolument extraordinaire. Écoute, le deuxième sujet dont on voulait parler, en fait, c'est... Moi, j'en ai fait ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est aussi sur Netflix, on s'excuse, c'est vraiment, on est en train de faire de la grosse pub pour Netflix. C'est un documentaire que je pense, Thomas, que tout le monde devrait voir, les jeunes comme les plus vieux. Ça s'appelle The Social Dilemma et c'est sur ce monstre, ce Frankenstein digital que sont les médias sociaux. Moi, c'est un documentaire qui m'a terrifié. Toi, quel effet ça t'a fait?
C'est venu confirmer quand même des choses que je savais parce c'est vraiment une incursion dans les GAFA en Californie, dans Silicon Valley, particulièrement chez Facebook pour comprendre comment ces sites-là fonctionnent, comment ils sont devenus aussi gros, aussi tentaculaires. Moi, ce que j'ai appris en fait là-dedans, c'est le rôle des algorithmes, le rôle des mathématiques. Je le connaissais déjà, mais je pensais que c'était encore dans l'avenir. Je pensais quand on disait les algorithmes vont contrôler nos vies, je pensais que c'était au futur. Mais là, ce que j'ai réalisé en voyant The Social Dilemma, c'est que c'est aujourd'hui, c'est le cas maintenant. Le documentaire fait vraiment une bonne job pour nous. Je trouve d'un côté, on vulgarise de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est un algorithme, quelle différence ça fait quand on consulte notre fil Facebook, par exemple. Et ça nous projette aussi dans je dirais même pas un avenir, je dirais vraiment un présent de radicalisation, de polarisation politique. On alterne entre des entrevues avec des anciens employés, souvent des ingénieurs, et l'ancien président de Pinterest,
oui,
qui a travaillé chez Facebook, qui dit vraiment ouvertement qu'il a peur de ce que ça peut devenir. Il y a un ancien employé de Facebook, notamment aussi, qui revient assez souvent, qui lui... vraiment dit qu'il faut agir le plus rapidement possible avant qu'on perde le contrôle, puis il se demande peut-être si on l'a déjà perdu. C'est vraiment sur le rôle de ces compagnies, de ces entreprises-là, comment on présume qu'elles sont bien intentionnées, mais que finalement, c'est pas vraiment le cas. Quel est le rôle de l'éthique chez Google aussi? Donc,
ça soulève beaucoup
de questions.
Alors, ça soulève beaucoup de questions d'éthique parce que quelque chose d'aussi simple que le fameux petit bouton « j'aime », là, les fameux « like », il y a quelqu'un à un moment donné dans le documentaire qui dit « j'étais effarée parce que les gens avaient plein de discussions sur, tu sais, quelle couleur on va le mettre, comment ça va fonctionner, tout ça, et il n'y a jamais personne qui s'est posé des questions d'éthique, à savoir, est-ce qu'il y a un danger que les gens deviennent accros à ça, est-ce que ça peut créer une dépendance, quel impact psychologique ça peut avoir que quand tu publies ou t'écris quelque chose ou que tu mets une photo de toi, il y a des gens qui vont appuyer sur « j'aime » ou « j'aime pas ». Elle dit les questions éthiques étaient jamais soulevées. Et je trouve que c'est ça qui fait le plus peur.
Plus loin que ça, moi, sais-tu quelle invention m'a marqué? C'est quand ils racontent comment ils ont inventé, tu sais, quand on est sur Facebook ou Instagram et qu'on défile et que ça n'arrête jamais. Donc, ce qu'on appelle le « scroll infini ». Et là, dans le documentaire, on explique bien comment ces sites web-là décident du contenu qui va nous être présenté. Parce que si moi, je scroll à l'infini, je verrai pas le même contenu que toi, tu vois.
Absolument.
Et pour moi, ça a démontré comment on vit chacun dans nos bulles. Écoute, moi, je le vois juste dans les dernières semaines parce que je me suis quand même intéressé aux conspirationnistes francophones québécois. Tu sais, donc, je vais voir plus de vidéos sur YouTube. J'essaie de voir sur Facebook qu'est-ce qu'ils font. Moi, je crois pas du tout là-dedans. Mais je vois maintenant comment les plateformes me propose plus de contenu par ces gens-là. Donc, je me dis, si on est moins allumé ou intéressé, écoute, Sophie, j'ai fait des études universitaires en communication, donc je comprends ça marche, mais c'est pas tout le monde qui a étudié là-dedans. Donc, c'est très alarmant de voir comment cette machine-là, très rapidement, peut décider de ce qu'on va voir et que finalement, les gens sont Puis moi, je me demande s'il y a est-ce qu'il va y avoir un appétit peut-être politique pour légiférer. Il n'y a pas beaucoup de, écoute, il y aurait le Congrès américain, l'Union européenne, mais il n'y a pas beaucoup de corps législatifs qui pourraient faire quelque chose.
Absolument. Écoute, je vais te raconter une anecdote qui va te faire peur. OK? Donc, dans le documentaire, ça montre vraiment à quel point, tu sais, on donne de l'information à ces grands groupes financiers-là et à quel point, justement, avec les algorithmes, ils arrivent à nous influencer, à nous manipuler, etc. Bon. Alors, il y a un ami à moi qui a fait une publication Facebook pour dire, bon, il avait vu Social Dilemma, puis il dit, moi, ça fait longtemps que je n'utilise plus Google pour faire mes recherches parce que Google, justement, va t'envoyer systématiquement des gens qui pensent comme toi. Ils vont orienter ton système de recherche. Il dit, moi, j'utilise un autre système de recherche qui s'appelle DuckDuckGo et je vous encourage fortement parce que DuckDuckGo, il ne garde pas un historique de tes recherches, donc tes recherches sont pas orientées. C'est beaucoup mieux d'utiliser DuckDuckGo. Fait que là, je mets un petit like sur la publication de mon ami. Écoute, dans la même journée, comme par hasard, sur mon fil apparaissent des publicités de DuckDuckGo. Alors même cette compagnie-là, qui supposément n'est pas dans toute le complot là des algorithmes ciblés avec un historique puis tout ça, ben même eux ils sont, parce que la journée même. Écoute, dans les heures qui ont suivi, moi j'avais jamais entendu parler de ma vie de DuckDuckGo, puis là comme par hasard, je suis inondé de publicités pour DuckDuckGo. Fait que ça me donne-tu envie d'utiliser DuckDuckGo au lieu de Google? Ben non.
Mais ce qui est difficile aussi, c'est que Facebook, dans l'histoire de l'humanité, ça reste. Il n'y a jamais un meilleur véhicule publicitaire, plus performant, plus ciblé, qui a été inventé à cette échelle-là. Tu sais. Donc là, on se retrouve devant une question, c'est est-ce que le marché doit se priver d'un outil aussi performant, aussi innovant? C'est contre nature pour le capitalisme. Moi, je pense que c'est le combat des 10 prochaines années. Là. Je pense que ces enjeux-là.
Absolument.
Vont vraiment avoir de plus en plus les politiciens, je pense, vont être au courant, à gauche comme à droite, puis il va falloir qu'on en parle plus. Mais là, vraiment, commencer avec Social Dilemma, c'est le meilleur point de départ si vous n'êtes pas trop familier avec ces enjeux-là.
Ben, c'est-à-dire que de toute façon, on se fait avoir, là, pour ne pas utiliser un mot plus grave, mais au moins, si on regarde le documentaire, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Ça veut pas dire que demain matin, on va fermer nos comptes Instagram, Facebook, Twitter, puis tout ça. Moi, j'en ai besoin pour le travail, là, j'ai pas le choix. Mais ça nous rend conscients, et la conscientisation, je pense que c'est le départ de bien des choses. Hey, merci beaucoup, Thomas, puis on se retrouve vendredi prochain, et vous allez pouvoir retrouver l'entrevue que je viens de faire avec Thomas sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Ah, qu'est-ce que tu veux, on est quand même un petit peu prisonnier de ça.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Bon, vous avez tous vu cette publicité choc du gouvernement, le témoignage de Francis, un survivant de la COVID-19, vraiment une publicité pour nous prendre par le bras de la chemise et pour nous éveiller. On va écouter un petit extrait de la publicité avec Francis qui témoigne de la COVID-19.
J'étais chez un ami, on jasait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais 3 jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à plus être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général, aujourd'hui j'ai une trachéo, puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
Alors, vous l'avez entendu, donc, une publicité choc. Ben, pouvez-vous croire qu'il y a des gens, des conspirationnistes, des complotistes, des anti-masques qui s'en sont pris à la vie privée de ce monsieur-là, Francis, qui ont commencé à dire « Ben non, c'est pas vrai, il y a pas vraiment la maladie. C'est un complot du gouvernement, c'est une arnaque. » Et qui sont même allés jusqu'à prétendent que ce monsieur-là, Francis, était un acteur, puis qu'il avait déjà été dans une publicité contre le cancer, que tout ça est un vaste complot. Moi, ça m'a beaucoup choqué, et je pense que ça a beaucoup choqué aussi les amis de Francis. Mon prochain invité s'appelle Patrick Grenier. C'est un ami de Francis, cet entrepreneur, donc, qui a eu des séquelles énormes de la COVID. Et il y a eu tellement de séquelles que Patrick a décidé, donc, de créer une levée de fonds pour aider financièrement son ami Francis. Bonjour, Monsieur Grenier.
Bonjour.
On va d'abord commencer par prendre des nouvelles de Francis. Comment va-t-il aujourd'hui dans toute cette tourmente qu'il touche?
Ben, il va. On se parle à tous les jours, c'est sûr. Je suis pas un peu dans le même bain que lui à cause que on a fait nos vidéos explicatives et tout ça sur les réseaux sociaux. Il va bien. On en rit. Parce que c'est tellement, ça dépasse le ridicule, c'est carrément fou. Il y a même du monde qui ont envoyé des photos du paquet de cigarettes coupé en deux avec la face de Francis d'un autre côté pour dire que c'est la même personne. Puis ça dépasse la réalité. Les menaces qu'on a eues toute la nuit, ça, le téléphone n'a pas dérougi.
Des menaces? Wow, attendez deux secondes, M. Grenier, vous avez reçu des menaces quand vous dites le téléphone a sonné pendant la nuit?
Pas des menaces directes, je vais te tuer, mais tu sais, des menaces, t'es un commentateur, on va te traquer, on va comme c'est épouvantable, là. C'est encore un matin avant que vous m'appeliez, encore un matin, mon téléphone sonnait, mais Messenger a sonné. Moi, j'étais chanceux, mon numéro de téléphone n'était pas sur mon Facebook. Il y en a d'autres que leurs téléphones sont sur Facebook, alors ils se font harceler carrément au téléphone. Là. Le téléphone manque de batterie tellement qu'il sonne.
Et donc, les gens harcèlent quiconque est un ami de Francis ou quiconque prend la défense de Francis. Alors, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Grenier, des vidéos. Alors, il faut expliquer la situation. Francis, c'est un ami à vous. Au mois de mai, vous avez choisi de faire une entrevue avec lui que vous avez mis sur les médias sociaux. Je pense qu'il y a jusqu'à 30 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là, où Francis expliquait qu'il avait eu la COVID. Il a été dans le coma pendant plusieurs jours et... Votre but à ce moment-là, c'était juste d'alerter les gens que c'était pas juste une simple grippe, que c'était grave la COVID.
Exactement. On a fait une vidéo juste parce qu'on s'était dit, si on peut en sauver un, si on peut juste informer quelques personnes. On a fait le premier vidéo, puis dans l'introduction du vidéo, je mentionne bien, c'est pas à titre, on veut pas se faire juger, on veut pas rien dire, on n'est pas on n'a pas la portée des jugements, mais la réalité fait que le monde tombe malade. Francis, il a malheureusement attrapé ça par vraiment anodin, que n'importe qui. Puis Francis, c'était une personne qui ne croyait pas au COVID. Et maintenant, il fait plus que le croire, il l'a eu. Alors, on a décidé de faire une vidéo comme ça, explicatif, mais pas de montage, rien. C'est juste un one take. On s'est filmé avec Zoom, là. On s'est filmé, simplement. Puis on a discuté de toute son expérience de A à Z, parce que je me suis dit, il y a tellement de fausses informations qui sont propagées sur des réseaux sociaux, qu'on s'était dit, on va juste montrer la réalité. Voici ce qui s'est passé dans mon cas. C'est tout. On veut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Ensuite, on a fait une autre vidéo qui n'est pas très longtemps, parce qu'après ça, il y a eu des complications suite à l'intubation. L'intubation a accroché ses cordes vocales, ça y a fait mal, puis là, il a paralysé les cordes vocales, embolie pulmonaire, double embolie pulmonaire.
Et c'est là qu'il a eu sa trachéotomie, donc c'est ça qui fait que sur la publicité du gouvernement, il appuie sur son petit dispositif qu'il a autour de la gorge, et c'est ça qui fait qu'il a, même aujourd'hui, de la difficulté à respirer, la difficulté à parler. Là, ce sont des séquelles qui sont réelles et qui sont graves pour votre ami Francis.
Absolument, il n'est pas tout seul dans ce... Il s'aperçoit qu'en faisant la vidéo, il y a beaucoup de monde qui l'ont contacté, qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Parce que n'importe quelle opération que tu es intubé, ben oui, il y a des dangers. C'est sûr. Là. Oui, il est magané. Il est tellement magané qu'en ce moment, il ne peut plus travailler. Il a perdu 40 livres de muscles. Puis Francis, c'est un gars qui... il n'a jamais fumé. Il boit presque pas. Il peut clencher 95% de la population à montagne. Il est en forme, ça n'a aucun sens. Là, en ce moment, il a tout perdu. Il perd tout. Il est en processus de tout perdre parce que la PCU finit fin septembre. Il est dans la zone grise vu qu'il est entrepreneur incorporé. Il n'a pas le droit à la PCU, pas le droit au chômage, plus le droit à rien. Ce qu'ils ont répondu, c'est il y a l'aide sociale. Alors, il a passé d'entrepreneur à très, très... Il gagnait très bien sa vie à plus rien. Puis là, les réseaux sociaux le plantent en disant que c'est un menteur, un acteur, ainsi, un manipulateur du gouvernement. C'est comme, c'est la démence totale, là. Mais là, c'est pour ça que j'ai décidé de partir une levée de fonds. Je me suis renseigné un peu. Il y a plein de monde qui m'ont dit, fais une levée de fonds pour lui. J'ai fait une levée de fonds. Comme ça, puis là, on est rendu quand même à ce matin à 3 800 $ ramassés. Mais le monde me dit, hey, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a fois qu'ils vivent un an là-dessus. Il y en a pour un an sans remettre. Il peut plus travailler. Il peut pas se faire engager par personne. Il y a de la misère à aller à boîte à mal.
Oui, c'est ça. Puis parce qu'à un moment donné, dans une des vidéos, il vous raconte qu'il est tellement essoufflé qu'il a même de la misère à se rendre, partir juste de son lit puis se rendre à la toilette. Donc, on voit bien sûr qu'il est très, très, très affecté physiquement par les séquelles de la COVID. Écoutez, je suis allée faire un tour sur le site des plus grands conspirationnistes, là, les anti-masques, le plus connu étant évidemment Alexis Cossette-Trudel. Et Monsieur Cossette-Trudel a relayé sur son compte Twitter quelqu'un qui avait fait justement un montage photo en dénonçant le fait que votre ami Francis, que c'était fake, que c'était de l'arnaque et que le gouvernement se moquait de nous et que votre ami Francis, en fait, au mois de septembre, il était en pleine forme. Qu'est-ce que vous voudriez dire, vous, à des gens comme Alexis Cossette-Trudel?
Ben, c'est parce qu'il s'est pas renseigné du tout. La première chose qu'on fait dans la vie, c'est se renseigner. On appelle la personne, on contacte la personne. On essaie de voir la vérité. Surtout quand tu es un conspirationniste, tu veux connaître la vérité. C'est un antipode. C'est à 180 degrés, ton histoire. Si tu dis que la voiture est rouge, ben, va voir que la voiture est rouge. Vas-y, va parler. Personne nous a contactés. Personne nous a demandé la vérité. Il y a un groupe qui nous a contactés et nous a demandé est-ce que c'est vrai. J'ai pris le temps d'expliquer correctement que non, Francis n'a jamais été sur un paquet de cigarettes. Francis ne fume pas. Je le connais depuis des années, puis crois-moi, c'est pas un acteur.
C'est un entrepreneur en construction. C'est pas un acteur, oui, c'est un entrepreneur en construction. Mais il faut juste expliquer, Monsieur Grenier, juste pour ceux qui sont pas au courant, c'est qu'il y a deux montages qui ont circulé beaucoup sur certains médias sociaux, donc de la part des conspirationnistes. Un, ouais, où on mettait une photo de Francis, parce qu'il a fait paraître une photo le 11 septembre, où on le voit au bord d'une rivière et tout ça, et il a l'air en effet bien portant. Mais c'est une photo, j'imagine, qui datait d'avant le mois de septembre.
Il datait de 5 ans.
Hein?
C'est une photo qui date de 5 ans. Puis comme je parlais un matin, puis il me dit, dans ce temps-là, je pesais 250 livres. J'étais pas mal plus maigre. Mais oui, parce qu'il s'est inscrit sur un site de célibataire, parce qu'il est célibataire, puis il essaie de trouver une copine ou quelqu'un pour passer du temps. Puis, il a posté une photo, comme tout le monde, comme moi, je posterais une photo. Mais cette récréo, elle date pas de 5 ans, elle date de quelques mois.
Mais c'est ça, mais là, moi, écoutez, pouvez-vous imaginer, M. Grenier, qu'hier, je me suis pognée avec certains de mes amis Facebook qui disaient, bon, OK, c'est peut-être vrai qu'il y a eu la COVID, là, peut-être, mais quand t'as la COVID, quand t'es un survivant de la COVID, tu t'en vas pas sur un site de rencontre pour rencontrer du monde. Il a fallu que je prenne la défense de Francis, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, en disant, ce monsieur-là, il a le droit à sa vie privée. Qu'est-ce que vous avez d'affaire à porter un jugement sur lui? Parce qu'il est célibataire puis il s'en va sur un site de rencontre, parce que c'est un survivant de la COVID, il a pas le droit de refaire sa vie puis de se trouver une blonde. Et c'est hallucinant, c'est de l'intimidation qu'on fait envers Francis, là.
Ah, pur et dur, regarde, hier encore, j'ai reçu des messages, des clips vocales sur Messenger au lieu que ça écrit, là. Écoute, je les ai pu écouter à un moment donné, ça devenait fou. Francis, il a pas eu la COVID, c'est le 5G qui l'a imposé, qui a envoyé des ondes, la férine dans le sang a transféré l'énergie de son oxygène. Encore, c'était carrément dément. Mais je les ai écoutés, je riais, mais ils sont convaincus de ça, là. Surtout que la technologie 5G, on le sait tous, est même pas arrivée au Canada. Il n'y a même pas de tour 5G au Canada. C'est fou. C'est prendre un mensonge et de le croire et de l'imputer à quelqu'un d'autre. On est coupable. En ce moment, je suis un menteur parce que j'ai fait une vidéo avec mon ami. Je suis un menteur parce que je manipule. Je suis un acteur payé par le gouvernement qui a fait une vidéo pour Francis. Voyons donc. Je suis tout sur facteur, moi, là. Je suis lettreur dans la vie. Je fais du lettrage.
C'est ça, j'allais vous demander si vous étiez pas un acteur vous-même. Peut-être que je suis en train de me faire manipuler par vous, Patrick. Peut-être que toute cette histoire-là est un vaste complot de François Legault pour nous faire croire que la COVID a des séquelles alors que finalement c'est juste une petite grippe. Patrick, je veux absolument d'abord saluer votre amitié. Je trouve que ce que vous faites pour prendre, vous porter à la défense de votre ami Francis, c'est très noble et je pense que Francis est très chanceux d'avoir des amis comme vous. Vous nous avez dit au tout début de l'entrevue, Patrick, vous avez dit que vous aviez parlé avec Francis ce matin, et puis vous dites, on en rit, on est capable d'en rire. C'est pas super drôle ce qui se passe en ce moment, parce que Francis, il était pas obligé de faire la publicité pour le gouvernement. Moi, je le trouve très courageux de l'avoir fait, et je me dis, si c'était à refaire, est-ce qu'il le ferait, sachant que les gens s'en viennent maintenant fouiller dans sa vie privée? Est-ce qu'il le referait aujourd'hui, cette publicité-là?
Honnêtement, c'est plutôt si on referait toute l'expérience de A à Z, c'est drôle, on s'en est justement jasé de ça ce matin, puis oui. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un peu notre esprit chevaleresque, un peu d'essayer de sauver quelqu'un. Tu sais, dans la vie, on dit, si je peux faire quelque chose, ben oui. Oui, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une action pour aider quelqu'un. Aider, en premier, informer du monde que oui, parce qu'au début, il y a plein de monde qui ne croyait pas à ça, puis si ça a sauvé une personne, ben voilà, la mission est faite. Deux, j'ai fait une campagne de financement, puis j'aimerais beaucoup que vous pouviez nous aider un peu de ce côté-là.
Oui, absolument.
Oui, parce qu'en ce moment, Francis va tomber en faillite dans les mois qui sont en vient. Même si le monde pense qu'il a été payé par le gouvernement, non, c'est pas le cas. Non, il n'a pas été payé 100 000 $. Non, il n'a pas... Non, c'est pas le cas. Moi, j'ai zéro, hein. C'est gratuit. J'ai fait ça par amitié. À un moment donné, si personne se lève pour les autres, ben quelle société qu'on va devenir? On va se faire gérer, on va se faire... les complotistes, ils vont ambitionner surtout, parce qu'en ce moment, ils ambitionnent surtout. Fait que ouais, moi, je me suis tenu debout, puis j'ai dit non, je vais le défendre, mon chum. Comme une bataille dans un bar, puis il y en a un qu'il faut qu'il se tienne debout. Ben, c'est ça, c'est moi. Je me tiens debout, puis tu veux manger des punchs, c'est pas grave.
Alors, donnez-nous donc l'adresse de la page Facebook où les gens peuvent aller pour, s'ils veulent, aider votre ami Francis. Donnez-nous les coordonnées pour qu'on puisse aider si on veut.
Ben, c'est sur ma page personnelle, Patrick Grenier. C'est un petit chevalier, parce que je m'amuse du côté médiéval un peu. Fait que moi, je suis un chevalier, et puis c'est peut-être mon côté chevaleresque qui fait tout ça. Et puis, j'ai le lien est directement là, en haut de la page. Fait que le monde qui veut bien partager vient nous aider. On est des beaux donateurs. C'est le fun. Peut-être le mettre en lien sur votre site ou votre groupe.
Avec plaisir. Avec plaisir. On va sur le site de Cube Radio, on va donner le lien. Puis sur ma page Facebook également, je vais donner un lien avec ça. Écoutez, c'est quand même, Patrick, on peut réfléchir à voix haute. Je trouve que c'est quand même assez singulier que quelqu'un qui a été dans le coma à cause de la COVID, qui a des séquelles encore aujourd'hui, plusieurs mois après l'avoir contracté, qui a des problèmes physiques, a des problèmes financiers, qui décide, ben moi, pour aider, je vais aller faire une publicité pour le gouvernement, pour sensibiliser mes compatriotes, pour sensibiliser les Québécois au danger de la COVID, que cette personne-là, au lieu de l'applaudir, il y a des tapons qui décident de l'intimider et de le dénoncer.
De mentir au nom de la vérité. C'est ça qui est incroyable.
C'est bien dit. Mentir au nom de la vérité.
Puis même pas une vérité. C'est pas une vérité. Le COVID existe, OK? Tu crois pas, c'est ton opinion. Mais que c'est fait arracher une partie des pas, paralyser des cordes vocales parce que l'intubation, ça, c'est une réalité. Qu'il n'y a pas de muscle aujourd'hui, ça, c'est une réalité. Qu'il ne peut plus travailler, c'est une réalité. Qui a de la misère aujourd'hui. C'est comme, puis, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pas le seul au Québec, là. Francis n'est pas unique. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté. Hey, ma blonde est dans la même situation. Ils ont eu le COVID ou pas. Le CPU n'aide plus. Parce que le gouvernement, au début, disait, on va aider tous les Québécois. Mais là, en ce moment, c'est le temps d'aider les Québécois. Parce que le PCU, là, a été donné à tout le monde. Même, il y a plein de monde qui en a abusé, qui n'avaient pas de besoin, qui en ont abusé, qui en ont eu illégalement, ça y en a un paquet. Là, en ce moment, il y a des vrais entrepreneurs qui vont perdre leur vie, qui n'ont pas le droit à la PCU, qui n'ont plus droit à rien. Ça, c'est des vraies personnes en besoin. C'est pas ceux des pseudo-PCU qui en avaient besoin au début. Là. C'est
Patrick,
un peu ça qu'on veut dénoncer.
Absolument. Alors Patrick, ben donner au nom de ben à mon nom personnel puis au nom de je pense que beaucoup de gens donner toute notre amitié, notre bienveillance à Francis. Moi, j'ai trouvé qu'il était très courageux de participer à cette publicité. Jamais j'aurais pu imaginer deux secondes que ça se retournerait contre lui, que les gens fouilleraient son intimité, que les gens l'accuseraient d'avoir participé à une arnaque. Vraiment, je suis sidéré. Et j'encourage aussi les gens, quand ils vont sur votre page Facebook à vous, Patrick Grenier, de retourner voir les deux vidéos que vous avez faites, une au mois de mai et une au mois de septembre, pour voir la réalité du témoignage de Francis, qui vraiment en a arraché, là. C'est vraiment très, très pénible ce qu'il a vécu. Et donc, pour voir que, ben, c'est pas un acteur, il a vraiment eu la COVID, c'est vraiment difficile. Et si on peut l'aider, ben, tant mieux. Merci beaucoup, M. Grenier, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Je vous envoie les liens, puis si c'est possible, ben, ça serait super apprécié.
Puis saluer Francis de notre part.
Ah, j'y manque pas. En vous remerciant beaucoup, beaucoup. Puis on a. C'est ça. Bonne journée, tout le monde.
Merci, Patrick Grenier. Donc, cet ami de Francis Brizard, cet homme qui paraît, donc, dans la publicité choc, hein, vraiment une publicité pour nous ébranler. Ben, je pense que lui-même est assez ébranlé par le ressac qu'il y a contre lui. Écoutez, le gars, il a la COVID, il y a des conséquences, des séquelles. Puis les complotistes, là, les tapons, les cabochons, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de s'en prendre à ce gars-là en inventant des faussetés. Ben, si vous voulez défendre les fake news, là, les petits amis complotistes, si vous voulez dénoncer les fake news, ben, vous êtes en train vous-même d'en faire un en ce moment.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Cette semaine, j'étais au gym, je me suis entraînée, j'ai soulevé des poids, j'ai couru un petit peu, j'ai fait un peu de Pilates, je me sentais bien et je me suis dit, s'il fallait que le gouvernement referme les gyms, je pense que je vais faire une dépression. Je me suis dit, je vais en parler avec mon ami José Lavigueur. Bonjour José, comment vas-tu?
Bonjour Sophie, je vais très très bien et ça me fait du bien juste de t'entendre parler de Pilates et d'entraînement. Je sais que tu as toujours adoré bouger parce que c'est la santé, bouger. Hein. Ça me fait tellement plaisir de te parler.
Ben écoute, moi aussi ça me fait plaisir, José. Écoute, est-ce que les gyms, selon toi, devraient être considérés comme un service essentiel ou est-ce que le gouvernement devrait éventuellement le fermer si on retourne en confinement partiel ou total?
Ben, c'est sûr que tu dois deviner ma réponse. C'est officiel que c'est un service essentiel. Après, quand je réfléchis, quand je discute, j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux et les réponses étaient très intéressantes. Surtout, Sophie, que tu devines bien que les gens qui me suivent, ben, ont quand même un certain penchant vers l'activité physique. Et pourtant, il y a eu des réponses quand même variées. Mais c'est sûr, pour te donner mon avis à moi, c'est sûr que c'est un service essentiel, surtout si on réfléchit aux catégories de services essentiels. Parce que quand on se rappelle du confinement, du triste confinement passé, ben, on pense à services essentiels, la SAC, le McDo, la SQDC, le Dollarama, je sais pas vous autres, mais oui, tu sais, parfait si les gens considèrent ces services comme essentiels. Mais à ce titre-là, moi, je pense que les gyms ont clairement leur place et même avant ça. Tu sais, je sais parce que tout le monde va débattre, tout le monde va dire, tu peux pas m'enlever ma bouteille de vin, tu peux pas m'enlever mon joint, tu peux pas m'enlever mon Big Mac. OK, mais tu peux pas non plus. Tu peux surtout pas m'enlever le plaisir de bouger et la nécessité de bouger. Hey, j'ai un commentaire que je vais te lire, je pense, de Renaud Lemay qui m'a écrit sur ma page Facebook. Lui, oui. Il a répondu, c'est essentiel, santé physique et mentale. Évidemment, j'aimerais ça qu'on en parle, mais nous en avons besoin plus que jamais. Lui, il dit, si la SAC, le Rona, le SQDC sont considérés ça fait, je ne vois pas comment vouloir tout faire pour garder notre santé ne serait pas un bien essentiel. Lui, il dit, t'as la santé, tu n'engorges pas les hôpitaux. Tu sais, parce que moi, je pense que cette discussion-là, Sophie-là, elle vient du fameux mythe tellement fort que si tu vas au gym, c'est parce que tu veux des gros biceps.
T'sais? Ben oui, le fameux chest bra, là, la fameuse ben vidéo chest bra.
On ne se débarrassera jamais. Tu sais, moi, j'ai une façon de voir ça. Si tu vas, je rencontre les gens en conférence souvent, puis tu sais, je vais dire, eh bien, toutes les raisons sont bonnes pour t'entraîner. Si tu t'entraînes pour avoir des gros bras puis un gros chest, gars, c'est ton problème, c'est parfait, c'est ton droit. Au moins, tu t'entraînes, comprends-tu?
Ben oui.
Et tu auras des répercussions. Oui, tu auras des beaux gros biceps, c'est correct, mais en plus, tu auras des répercussions sur ta santé. Mais de plus en plus, les gens s'entraînent pour leur santé globale, leur santé mentale, et même, on peut parler de santé sociale. C'est super, et c'est ça qui est essentiel, tu vois. Il y a des gens qui me parlent aussi d'alternatives. C'est sûr qu'on peut parler d'entraînement à l'extérieur des gyms. Il y a beaucoup de gens, et surtout par les temps qui courent, c'est tellement magnifique, beaucoup de gens vont aller jouer dehors, parce que bouger, c'est jouer aussi, et surtout, selon moi, tu sais. Donc, bouger dehors, bouger sur des plateformes numériques, il y en a de plus en plus, tu sais bien que je vais en parler, mais c'est essentiel de bouger. Tu l'as compris dans ta présentation, c'était très, très clair. C'est essentiel pour, je pense, pour la santé mentale notamment.
Bon, alors parlons justement, il y a plusieurs points que tu soulèves, donc on va les prendre un par un. Ton ami, ou en fait la personne qui t'a écrit sur Facebook, dit la santé physique et mentale. Et là, je trouve que c'est super important, parce que s'il y a une chose qu'on a retenue de ce confinement, ce premier confinement, tu sais, il faut quand même qu'on tire des leçons, c'est à quel point le moral en a perdu. Tu sais, je veux dire, ça a été difficile psychologiquement, ce confinement-là. Alors, si on peut faire quelque chose qui nous aide à mieux vivre entre les deux oreilles, tant mieux. Et Dieu sait que l'exercice, c'est pas juste que ça fait du bien, ton corps te sent bien, mais tu dors mieux, t'es moins déprimé. Tu sais, la fameuse endorphine, là, la fameuse hormone du bonheur ou du plaisir, tu l'as quand tu fais de l'exercice, donc il faut pas minimiser ça du tout, là.
Ah, t'as tout à fait raison. Tout est là, Sophie. Moi, je trouve que la bonne nouvelle, parce qu'il faut bien en trouver des bonnes nouvelles, suite à cette pandémie-là, je pense que les gens auront réalisé justement l'impact précieux de l'activité physique sur la santé mentale, puisque c'est de ça qu'on parle en ce moment. Parce que c'est sûr qu'il y a plein, il y a juste des bons côtés à l'activité physique tant qu'on n'en abuse pas, tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne tombe pas dans le surentraînement. Mais au niveau de la santé mentale, tu sais, l'endorphine, c'est pas de la magie. C'est pas un miracle, c'est réel. Il y a des bienfaits physiologiques qui sont réels. Et tu sais qu'il y a plusieurs études, et ça fait plusieurs années qu'on en parle, qui démontrent que on a fait des tests, on a fait des essais avec des gens cliniquement qui avaient besoin d'une certaine dose d'anxiolytique, donc de médicaments pour l'anxiété.
D'antidépresseurs, ouais.
D'antidépresseurs, et ils ont vraiment clairement démontré que les gens qui faisaient un programme d'activité physique régulier étaient capables de diminuer la médication. Tu sais, ça en dit...
C'est probant quand même, ouais.
Ah, vraiment. Non, ça, c'est vraiment démontré. Je pourrais vous sortir les sources, même... Il y a plusieurs études là-dessus, et c'est démontré, et de toute façon, même si on n'entre pas dans les détails scientifiques, dans les termes physiologiques, la première chose que quelqu'un dit quand il entre d'une marche, tu sais, quand tu reviens d'une marche, là, tu passes la porte, c'est quoi qu'on dit? On dit automatiquement, oh my God, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien.
Exactement.
C'est vraiment ça qu'on entend. Quand je pose la question aux gens, je leur demande, tu sais, quand t'es dans le vestiaire après ton workout, là, c'est quoi la première affaire? Là, tu dis, ça fait du bien. Ça me tentait pas tant avant, tu sais, ça m'a pris un petit peu de courage pour attraper mon sac puis repartir, mais mon Dieu, que je suis contente de l'avoir fait. Ça fait toujours du bien, et ce terme-là est directement relié au bien-être mental. Tout de suite, on a un impact sur la santé mentale, contrairement à si je m'entraîne parce que je veux perdre du poids, c'est uniquement comme ça l'objectif. Ben, c'est décourageant. C'est décourageant, et c'est ça qui fait qu'on perd du monde. C'est que les gens n'ont pas
Absolument.
Les objectifs réalistes. Ils font comme, bon, mais ben moi, je veux être plus cool dans mon bikini pour mon prochain voyage. On s'entend qu'il est peut-être loin, mais pas grave. Je veux être plus cool. Et ça, c'est décourageant. Alors que si on se concentre sur le bien-être immédiat qu'on ressent pendant ou après une activité physique, ben ça devient motivant en soi. Et c'est réel. Moi, c'est ça que je veux que les gens comprennent.
Mais t'es une tellement bonne ambassadrice, puis t'en parles avec tellement de passion, j'adore ça.
Oh,
l'autre, oh, mais c'est tellement vrai. Écoute, l'autre point, c'est que, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de remède miracle, mais quand même, tout le monde s'entend pour dire que, et puis de toute façon, c'est une évidence physiologique, pour combattre un virus, que ce soit le virus de la grippe ou que ce soit le virus de la COVID-19, il faut se bâtir un système immunitaire fort. Puis, ouais, c'est pas en prenant une petite pilule ou une espèce de patente que t'achètes sur Internet. Une des façons, c'est évidemment d'avoir une excellente alimentation, etc., de prendre soin de soi, mais une des façons aussi de maintenir un bon système immunitaire, c'est toujours bien de faire de l'exercice.
C'est la meilleure façon. C'est la façon, encore une fois, qui a été démontrée par plusieurs études. Tu sais, aussitôt qu'on parle de maladies chroniques, aussitôt qu'on parle de blessures aiguës, c'est sûr qu'il y aura toujours une notion de malchance d'attacher. Il y a une notion de malchance attachée aux maladies qu'on attrape, aux maladies chroniques. Mais en bougeant régulièrement, on met toutes les chances de notre côté. Ça s'appelle de la prévention. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça prend pas un entraînement pour un marathon ou pour un triathlon. C'est correct, ça.
C'est bien de le rappeler, Josée, parce que les gens pensent que faut que tu fasses, c'est tout ou rien. Je vais pas m'exercer parce que de toute façon, tu sais, moi, je suis juste capable de prendre une demi-heure par semaine puis ça donnera rien. Ben non.
Ah, je suis tellement contente que tu dises ça parce que c'est ça. Ça a tellement changé, ça, depuis le temps qu'on s'entraîne. Parce que moi, je me rappelle de l'époque où, tu sais, si t'allais pas une heure au gym, tu perdais ton temps. Va pas là 20 minutes, faire ton temps. Alors qu'aujourd'hui, on sait que si tu sors juste 10 minutes parce que t'as juste 10 minutes sur l'heure du lunch, ben c'est toujours, ça a toujours un impact. Ça aura toujours un impact et ça va premièrement avoir un impact, on l'a dit, sur ta santé mentale, mais deuxièmement sur ton système immunitaire. On a besoin de bouger. Le corps humain est fait pour bouger. Et c'est un des grands problèmes de la société moderne. On est ben trop sédentaire. On est beaucoup trop sédentaire. Donc, il faut vraiment se mettre à bouger et c'est ça, tu l'as dit, ça prend pas un entraînement d'athlète pour faire une différence, pour avoir un impact sur cette santé.
Ouais. Écoute, moi, je parlais du gym en début d'entrevue. Écoute, je sais pas comment ça se passe dans les autres gyms. J'ai pas visité tous les gyms au Québec. Le gym où moi je vais là, ils nous prennent la température quand on rentre. Première chose, tu mets les pieds dans le gym, ils prennent ta température. Le masque est évidemment obligatoire tout le temps. Les instructeurs, les profs, parce qu'il y a des cours privés, porte le masque en tout temps. T'as évidemment partout des trucs pour du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Quand il y a des cours de groupe, ils ont mis des ronds au sol pour bien qu'on soit séparés les uns des autres du 2 mètres. En plus, ils ont acheté une espèce de système qui purifie l'air à 99%. Écoute, vraiment, je dis pas que c'est pareil dans tous les gyms, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me sens plus en sécurité d'aller au gym que d'aller faire l'épicerie.
C'est tellement vrai! Mais c'est sûr, là, on peut pas dire que l'épicerie, c'est moins essentiel, c'est sûr. Mais tu as tout à fait raison. Et moi, je peux te confirmer que, bon, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de collègues. J'ai vu beaucoup de gyms, d'installations. Écoute, ils ont eu beaucoup de temps pour s'organiser parce que
ils ont été fermés longtemps.
Pandémie. Mais oui, je te confirme, la vérité, c'est que c'est pas tous les gyms qui prennent la température. Ça, je sais. Tu es vraiment dans une Cadillac, là. On nommera pas personne, mais t'es dans une Cadillac. Moi, je sais que le gym où je donne des cours, j'ai à peine de recommencer il y a 2 semaines, mais les masques sont portés, le gel, évidemment, les cours, chaque participant a une case au sol qu'il doit nettoyer avant et après sa classe. C'est sûr que c'est intense. C'est sûr que pour certains, ça semble décourageant, mais c'est une période. On va s'en sortir. On va se retrouver de l'autre côté. Et ce qu'on veut, c'est se retrouver de l'autre côté en santé et avec des proches en santé aussi. On a un effort à faire. Les gyms l'ont fait. Ça a été démontré. Tu sais, il y a eu un conseil qui a été créé. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Un nom à coucher
dehors.
Le CCICP. C'est le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, mais qui a vraiment vraiment une cause très noble et qui, c'est vraiment un regroupement canadien pour s'assurer justement que dans toutes les salles d'entraînement, dans tous les centres de conditionnement physique, les normes soient respectées et qu'on soit solidaire malgré la compétition pour faire respecter cette industrie qui est si importante. Donc, une belle organisation. En fait, c'est le penchant francophone du FIC, qui est la fédérale, en tout cas, c'est le terme anglophone. Bref, bon. C'est pas fait à peu près.
Non, mais c'est ça. Ben, c'est là que je voulais en venir. Et c'est aussi que quand on regarde, par exemple, tu sais, je regarde, mettons, juste les deux dernières semaines. Il y a eu des éclosions, des mariages, des baptêmes, des funérailles, des bars de karaoké, des restaurants, des... Mais as-tu entendu parler, toi, d'une éclosion dans un gym? Non.
Non.
Ben, c'est important de le mentionner quand même, là. Tu sais, je veux dire, c'est...
Oui, c'est super.
Donc, ça
important.
Veut dire que... Donc, moi, je compte sur toi, je veux qu'on se batte, je veux pas que le gouvernement ferme les gyms, s'il vous plaît, Monsieur Legault, je vais me mettre à genoux devant le docteur Arruda, je veux pas qu'on ferme les gyms.
Non, mais et docteur Arruda, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises dans le cadre des grandes marches du Grand Défi Pierre Lavoie.
Oui.
C'est un homme qui adore bouger, qui adore danser.
Oui, on l'a vu.
Oui, non, mais c'est pour vrai, c'était sincère, c'était spontané. Je l'ai vu moi monter sur scène pour les marches du Grand Défi Pierre Lavoie et se mettre à se déhancher spontanément parce qu'il adore ça. Donc, tu n'auras pas de misère à le convaincre, selon moi. Je pense que si tout justement les propriétaires de gym, les collègues, les entraîneurs se serrent les coudes et passent le message, les gens vont comprendre, comme tu le dis, qu'ils sont en sécurité là-bas autant, sinon plus, que dans plusieurs autres commerces qui restent ouverts. Et écoute, moi, je suis allée hier, bon, en tout cas, peu importe, je suis allée à l'épicerie et pour vrai, ça me renverse de constater que les gens recommencent à empiler des produits que je nommerai
c'est
pas parce
fou,
qu'on
hein?
dirait que ça fait comme un c'est fou. Mais moi je peux vous dire une chose, on parlait d'immunité, j'ai envie de rappeler aux gens l'importance de l'activité physique quelle qu'elle soit, l'importance on a vu les gens marcher, on a vu les gens courir, tout compte. Je vous implore de sortir, bouger régulièrement, une bonne alimentation, tu l'as dit Sophie, et ça ici a un supplément. Et j'ai quasiment peur de le dire parce que je sais que les tablettes vont rapidement se vider, mais c'est vrai qu'ici, au Québec, on a besoin de prendre de la vitamine D à partir
Je suis contente que tu le dises. Oui, je suis contente que tu le dises.
Ça aussi. C'est démontré. Moi, j'en achète pour mes parents, j'en prends moi-même. On n'a pas suffisamment de vitamine D ici au Québec. Donc ça, tu sais, et il y a eu des liens, ça a été démontré que... un grand pourcentage de gens qui ont été affectés par la COVID étaient déficients en vitamine D. Il y a vraiment eu un lien, et particulièrement chez les gens âgés. Donc, s'il y a une petite note à prendre, c'est peut-être celle-là. Et de bien manger, là, pendant que ça sent ici le potage à la courge musquée que je suis en train de
préparer. Ma petite coquine! Tu nous enverras ta recette, toi!
Hey, c'est tellement facile! C'est tellement bon, Sophie, je suis sûre que tu te régalerais. J'ajoute un peu de pois chiche pour les protéines.
Ouh. Ah, t'es donc parfaite, toi! Mmh. Écoute, non, elle a tous les talents, cette Josée Lavigueur. Écoute, moi, je pense que au-delà du fait de est-ce qu'on doit ou pas considérer les gyms comme des services essentiels, je pense que le fait de bouger doit être considéré comme une activité essentielle, en tout cas.
Oui.
Puis écoute, on n'a jamais autant parlé de santé publique. Ben, faut pas oublier que dans santé publique, le mot le plus important, c'est la santé. Alors, venez pas nous dire que quand on va, que ce soit marcher, que ce soit, bon, évidemment, aller au gym, que ça, c'est pas essentiel à notre survie dans cette période si difficile de la COVID-19. Donc, tu sais, quand Christian Dubé, ministre de la Santé, dit « Restez chez vous », je pense qu'il faudrait qu'il rajoute « Restez chez vous », à moins que ce soit pour aller faire du sport.
Exactement. À moins que ce soit pour bouger, parce que moi, j'ai un slogan que je répète tout le temps.
Oui, allez-y, vas-y.
C'est la santé. Bouger, c'est la santé. C'est vrai. C'est prouvé partout depuis des siècles. Donc, plus que jamais, je pense qu'on devrait appliquer ce très, très beau slogan.
Ah, oh, t'es vraiment... Écoute, je suis tellement contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Et écoute, je pense que de toute façon, oui, on a besoin de vitamine D, mais on a surtout besoin de vitamine Josée. Écoute, il n'y a pas grand monde qui est aussi vitaminé que toi.
Ah, t'es tellement fine. Et tu sais, c'est... C'est ça. J'ai envie de te dire, malheureusement, les gens ne sont pas tous d'accord, mais en fait, quand on s'arrête, quand on devient objectif, c'est évident. C'est une évidence et je pense que le Québec est en train de comprendre ça.
Ouais, ben en tout cas j'aime beaucoup ton argument. Si on laisse la SAQ et la SQDC ouvertes, qu'on peut se bourrer la face et se geler la bine, laissez donc les gyms ouverts pour qu'on puisse justement sortir les toxines, tiens. Disons
attends
ça comme ça.
Spirit, hein, parce que
non, c'est pas ça. Ben non, ah non.
Je vais.
Oui, non, je sais. On va faire très attention de te protéger, ma belle Josée. Josée Lavigueur, donc spécialiste. Oui, spécialiste en éducation physique. Puis, vous pouvez la suivre, évidemment, les médias sociaux, ses livres, ses DVD, son compte Facebook, partout, elle est la belle Josée Lavigueur. Merci beaucoup, Josée.
Ah, oh, t'es super fine. Si vous êtes curieux, venez voir la plateforme Ma Zone Fit qu'on a créée il y a 2 ans. Je suis vraiment très, très fière de cette suite logique des DVD. Hey, Sophie, t'es une amour. Merci vraiment beaucoup. Un grand plaisir. Puis n'importe quand tu m'appelles.
OK, ça fait plaisir, merci. Donc, c'est avec Josée Lavigueur que se termine non seulement l'émission, mais en plus, cette très, très belle semaine sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est très apprécié. Vous savez que vous pouvez toujours écouter des segments ou l'émission au complet sur le site de Cube Radio. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière qui a passé toute la semaine avec moi à la réalisation, à la mise en onde, puis Hugo Veilleux, toujours fidèle au poste depuis des mois, des années à la recherche, puis revenez-nous en pleine forme.
Cube Radio.